Bien, pendant que tout le monde s'installe, je voudrais dire tout mon plaisir d'être ici, dire celui, le plaisir du programme Non-lieu de l'exil. On n'est pas souvent en exil, on n'est pas souvent à demeure. Or, on a trouvé une belle hospitalité ici et je voudrais remercier spécialement Jérémy Desjardins et Caroline Reynaud et à travers eux toute l'équipe. Mais mon remerciement va surtout à Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski qui a rendu cette collaboration si fructueuse et possible et avec qui il a été particulièrement plaisant et vraiment fructueux de travailler tout au long du cycle migration que l'INALCO a mis en place, qu'elle a mis en place à l'INALCO l'année dernière et c'est la dernière séance. Alors le programme Non-lieu de l'exil travaille depuis 2011 dans une perspective interdisciplinaire sur l'expérience de l'exil, privilégiant l'étude des vécus et des expressions des sujets en exil, travaillant fondamentalement ce que Édouard Saïd appelle la discontinuité dans l'être et postulant qu'il y a un noyau commun quand même d'Ovide aux réfugiés à Calais. Et c'est ce que nous faisons depuis 2011 et que nous continuons à faire. Alors ce que les mots tentent de traduire, les images l'exposent, tentent de le rendre immédiatement sensible. Et l'actualité est ainsi pleine, emplie d'images, de ces images qui transmettent de façon quasi instantanée dans un monde en incessant mouvement médiatique, un instant spécifique, arrêté sur le vif de la vie d'exilé. Les images créent une image de ce que l'on appelle la crise migratoire, qu'on pourrait aussi bien appeler la crise des politiques de l'asile, et partant, elles construisent la figure contemporaine de l'exilé. De nombreux travaux sur les images des génocides et des guerres ont pourtant souligné ce paradoxe. Le paradoxe suivant, c'est les images, si les images témoignent, transmettent à la postérité de précieux éléments d'interprétation, elles échouent aussi à restituer pleinement ce qui fut. Car les images, et nous le savons, ou nous nous en doutons, ne sont jamais le réel, mais une représentation de celui-ci. Et elles sont dans tous les cas dépendantes des conditions sociales et politiques, de leur production, de la commande, du projet et du positionnement du photographe. Elles engagent aussi sa responsabilité. Leur réception par le spectateur ouvre de ce fait un espace critique d'interrogation. Quels sont dès lors les choix photographiques à l'œuvre pour rendre compte de ce que l'anthropologue Michel Agier désigne comme des « situations de frontières » dans un sens générique incluant, je le cite, « tous les hors-lieux et les temps suspendus, c'est-à-dire les ghettos, les camps, les espaces de l'entre-deux, des limites et des seuils ». Dans quelles conditions ? À quelle fin ? S'agit-il d'ériger l'œil du photographe en témoin ? Ou plutôt d'éclaircir une configuration, d'après une expression que j'emprunte à Christiane Voller ? Pour interroger les fonctions et les effets de l'image sur le sujet exilé, nous avons réuni quatre intervenants qui ont en commun de travailler les situations de frontières et d'exil et d'interroger leurs pratiques. Sarah Pressiani, bonjour, photographe et experte en politique internationale d'immigration dans l'espace méditerranéen principalement. Sarah a notamment publié, parmi ses différentes publications, avec Michel Agier, l'ouvrage intitulé « Je me suis réfugié là, bord de route en exil » dans les éditions Donnez-lieu en 2011. Philippe Bazin, un photographe et enseignant-chercheur à l'École nationale des beaux-arts de Dijon, mène depuis plusieurs années une recherche intitulée « Pour une photographie documentaire critique ». Laetitia Tura, Laetitia, photographe et réalisatrice qui travaille sur la mise en scène des frontières, l'invisibilité et la mémoire des parcours migratoires et qui a co-réalisé avec Hélène Crousilla en 2014 le très beau film tout à fait essentiel intitulé Les Messagers dont on verra tout à l'heure un extrait. Et enfin Christiane Voller, philosophe, qui a notamment publié parmi différents ouvrages avec Philippe Bazin l'ouvrage « Le milieu de nulle part » chez Créafis en 2012 et de nombreux textes sur la position documentaire face à l'exil et qui travaille plus largement sur les rapports entre esthétique et politique. Alors on a divisé cette table ronde en deux parties, deux séries de questions et deux donc tours de table. Et la première que j'aimerais poser, c'est celle-ci. De quoi précisément, d'après vous, la photographie rend-elle compte quand elle travaille l'exil ? Et quelle est la position du photographe ? Sarah ?
Merci. J'ai un parcours de photographe qui raconte des lieux que je visite à travers les images, à travers les paroles. Donc, tout en vous parlant pour répondre à cette question-là, je vous ferai passer une des séries auxquelles je travaille depuis pas mal d'années, disons depuis le début 2004-2005. Il s'agit d'une série qui mélange différentes photos des campements, des photos des calais, des photos des grands centres tels qu'était la jungle avant qu'elle soit ensuite déplacée dans un campement humanitaire, des photos du campement des Idoménies, cet campement qui s'est créé à la frontière entre la Grèce et la Macédoine suite à la fermeture de la frontière avec la Macédoine, et les campements du Pirée, au port du Pirée. Ce n'est pas la frontière, mais ce qui était au cours des différents voyages que j'ai fait dans ces campements, j'ai compris que les migrants étaient là parce que pour eux c'était la frontière, c'était proche du moment du passage vers la Macédoine. Donc c'est à travers ces images que je ne vais pas du tout commenter, mais que je vais ouvrir juste en première réflexion pour répondre à ta question, Alexandre, d'où vient ces photos du campement, d'où vient la réflexion autour des campements. Je partirai de l'exemple des Calais parce que c'est l'exemple que vous connaissez mieux. Nous sommes trop souvent focalisés à comprendre ce qui se passe dans ces lieux. Donc la volonté, je pense aussi à travers la photo, c'est d'essayer de raconter dans les temps. Alors moi, avec Calais, je l'ai fait plus ou moins depuis 2005. Je retourne régulièrement et je raconte à travers les images ce qui se passe, justement pour enfin arriver à une conclusion qu'il ne s'agit pas simplement d'un camp, mais que derrière ces campements, il y a une vraie politique. Et du coup, tout d'un coup, les campements qu'on raconte à travers les images deviennent les effets premiers d'une politique. Et ces politiques doivent être bien claires quand on raconte ces campements, et c'est la politique des fermetures des frontières. Et c'est pour cela que du coup, ça prend tout son sens de raconter à la fois des Calais, des Patras, des Idoménies et de tous ces lieux NAS, ces hors-lieux, ces lieux où les migrants s'entassent, se ferment, s'arrêtent, parce qu'il y a des politiques qui les imposent à s'arrêter. Et donc voilà, je pense que les images doivent toujours raconter quelque chose, mais qu'elles doivent être toujours encadrées comme effet d'une politique. Mais il y a aussi, ils ne sont pas que l'effet d'une politique, ils sont aussi, eux-mêmes subissent des politiques continues. Et pour ce qui concerne les campements, ces campements qui sont donc décrits dans ces courts portfolios, c'est les politiques d'invisibilisation, des constructions et des reconstructions et des précarisations. On a entendu parler de l'évacuation du campement des Idoménies. J'appelais ce processus comme la colonisation des Idoménies. C'était exactement les mêmes procédures. On a arrêté aux médias, on a fermé les lieux, on a évacué les volontaires et puis on a fait déplacer les migrants au nom de la résolution du problème. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas eu des solutions. Et les effets des nombreuses évacuations des jungles des Calais, mais comme du camp des Idoménies, ont été dans les temps toujours les mêmes. C'est-à-dire cet processus des précarisations, d'éparpillement, alors pour ce qui concerne les Calais, tout le long du littoral, pour ce qui concerne les Idoménies, des petits campements qui se sont créés, des migrants qui se sont enfouis dans les forêts, avec une situation beaucoup plus grave, beaucoup plus périlleuse, beaucoup plus dangereuse. Donc finalement, cette évacuation qui subit ces lieux sont un peu les mêmes effets. Et là, donc la photo à cette rôle central, d'un côté, de raconter les effets de ces politiques, donc cet éparpillement, cette précarisation, mais aussi de raconter la quotidiennité de ces lieux. Et donc, c'est à travers les récits de la quotidiennité qu'on arrive à comprendre la profonde dignité que les exilés mettent en place pour survivre aux politiques des fermetures des frontières. Et je termine sur l'idée de l'autre utilisation de la photo. C'était pas du tout l'objectif quand je suis allée dans ces lieux, c'était celui de faire des portraits. Les portraits sont venus spontanés du moment qu'il y avait des exilés qui me regardaient fixe dans l'objectif. Ils pouvaient rester plusieurs secondes, plusieurs minutes, et ce qui ressortait de ces portraits, c'était vraiment cette dignité profonde qui finalement déroutait complètement les politiques d'enfermement et des mises à l'écart et des fermetures des frontières qui les obligeaient à vivre dans des conditions si dures telles qu'ils sont les campements, les jungles aux frontières d'Europe.
Merci Sarah. Philippe, est-ce qu'il s'agirait aussi de questionner, le photographe questionne-t-il les situations de frontières ?
En tout cas, sans doute, il essaye de le faire. Et pour répondre à cette question de la position du photographe, j'avais été amené à répondre à cette question à la suite d'un texte paru sur le magazine du Jeu de Paume, qui posait cette question, comment photographier les clandestins. Et donc, j'ai écrit un texte de réponse qui disait, mais pourquoi photographier les clandestins? Et je pense que c'est quand même une question qui me paraît nettement plus cruciale. Je me suis aussi trouvé à l'automne dernier dans une rencontre avec des gens de l'EHESS qui travaillent sur ces questions au Bâle, et le directeur de Migre Europe disait cette chose extrêmement simple. Eh bien voilà, quand ils entrent dans l'espace de Schengen, ils sont assignés à déposer leurs empreintes, et donc en plus il y a un redoublement de cette assignation qui consisterait à être obligé aussi d'une certaine manière de déposer leur visage dans les photographies. Voilà, donc c'est une vraie question de savoir si on peut photographier ces gens qui arrivent clandestinement, qui arrivent souvent de théâtres de guerre très violents, qui peuvent être pourchassés par les pays d'où ils se sont enfuis. C'est ce qu'on a vu en Pologne. Alors j'avais préparé un montage photographique. Est-ce qu'on peut le projeter? Ça devait passer depuis la cabine, mais ça n'a pas l'air de passer. Donc voilà, ça y est. Voilà, donc moi je me suis plutôt mis dans cette position d'interroger les dispositifs qui sont organisés chez nous par nos politiques pour justement accueillir, le mot est un peu fort, n'est-ce pas, quand on voit ces photos, pour organiser la présence de ces gens sur nos territoires dans l'espace de Schengen. Ici, c'est un montage de 12 photographies que j'ai fait à la prison de l'aéroport de Varsovie en 2008. Voilà, le commandant des gardes frontières m'a invité à faire cette photographie dans une cellule qui était vide. Et je me suis mis dans la position qui est celle potentielle d'un détenu, c'est-à-dire de tourner en rond avec mon appareil photographique dans un espace, vous voyez, qui est extrêmement fort sur le plan de la construction et qui parle bien d'une manière métaphorique de la façon dont ces dispositifs politiques organisent, entre guillemets, l'accueil des gens. Voilà, donc, comme le disait un de ces demandeurs d'asile qu'on a rencontré avec Christiane Voller, ces dispositifs nous rendent fous, au sens littéral, au sens propre du terme. Hein. Et je pense que c'est vraiment très important d'adopter une position qui cherche à déconstruire, à contrer ces dispositifs qui sont criminels, qui entraînent la mort d'un tas et d'un tas de gens, comme chacun le sait.
Merci. Laetitia, dans ton travail, tu expliques interroger la violence des territoires, hein, et aussi cette violence te permet de penser les limites de ta position. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces premières séries de photos ?
Oui, bonsoir. Donc je ne vais pas vraiment commenter chacune des photos, je vais plutôt raconter effectivement le chemin qui m'a conduit à faire ces photographies, puis finalement aussi à les laisser de côté. Donc c'est des photographies qui ont été prises au Maroc pendant 5 ans. Donc le Maroc, c'est-à-dire on voulait travailler sur la violence qui est faite aux frontières de l'Europe et se situer en amont de ces frontières. Travailler en amont de cette frontière, c'est regarder ce que cela produit pour ceux qui font l'expérience de l'exil dans leur corps, qui font l'expérience de cette violence-là intimement. Du coup, je dis « on » parce que c'est assez vite un travail qu'on a fait à deux avec Hélène Crozilla, en associant des images, des photographies avec des entretiens, puisque finalement, ce qui est apparu en termes de violence produit une impossibilité pour un premier temps en tout cas, à se rencontrer simplement, puisque tout est fait pour qu'on ne se rencontre pas, puisque tout est fait pour que les exilés sur place qui s'organisent là pour rejoindre soit la frontière terrestre, pour l'unique frontière terrestre pour passer vers l'Europe à partir du continent africain via les enclaves de Ceuta et Melilla, soit pour passer en Zodiac ou à la nage, sont traduits par des stratégies de repli et de camouflage extrêmement fortes pour des questions de survie. Donc, quand on est face, en tant que photographe, à ou peu importe, quelqu'un qui produit des images à ce genre de terrain-là, on est vraiment retranché à un endroit, à une limite de production de visible. Et donc, je crois qu'on va reparler de la question du visage après, mais il y avait vraiment un endroit, être au Maroc ou être à Melilla, là, la question du visage ne se pose absolument pas pareil. Donc, on commence en fait à faire des entretiens, faire des récits, et les récits finalement sont la première étape qui rend possible la réalisation d'images, et des images qui racontent quoi ? Des images qui sont finalement les territoires à travers les usages des exilés qui traversent le Maroc. Des lieux, des noms de lieux qui reviennent de manière récurrente, des lieux qui sont soit des lieux de déportation, des lieux de disparition, des noms de lieux qui permettent de rejoindre à un autre endroit. Donc il y a tout comme ça, tout un vocabulaire, une topographie qui finalement sont vraiment la clé d'entrée d'image, en fait, du faire image. Je dis ça, vous avez dû voir quelques photos aussi d'abris, des tentes. Elles ont été faites en des endroits extrêmement divers du Maroc et pendant 5 ans, à partir de 2007. Finalement, c'est des images, maintenant on est assez habitué à voir ces images-là. Et se pose toujours la question de comment on déplace les imaginaires, comment on arrive à construire autre chose. Donc autant à ce moment où je les faisais, ça me paraissait important que dans ces lieux d'habitation, on puisse, ça soit pas des images faites qui rajoutent du désordre. Et donc de mettre en scène des images qui soient posées ou même dans des abris aussi fragiles soient-ils, on perçoit la tentative de fabriquer un ordre, parce que malgré tout, il y a un ordre, un vivre qui essaye de s'inventer là. Voilà. Et je crois que ça coule, et donc je
vais m'arrêter. On reviendra sur cette question plus tard, Laetitia. Christiane, il y aurait donc, de façon évidente, une position à trouver pour le photographe, une position documentaire face à l'exil.
Oui, de toute manière, quand on montre... il faut savoir d'où on montre et à qui on montre. Et donc forcément, il y a une position, c'est-à-dire on parle de quelque part et de la même manière, on produit des images de quelque part et à destination d'un public. Et d'autre part, on produit des images aussi de situations qui ne sont pas les nôtres. Donc tout à l'heure, par exemple, il y avait la question qu'a posée ce jeune comédien que j'ai trouvé très bien et qui a dit « Et vous, les Français, vous savez ce que ça veut dire, l'exil ?» Et à un certain moment, j'étais vraiment tentée de lui répondre, mais bien sûr, si l'on regarde comment les gouvernements qui sont les nôtres traitent les exilés, nous devons nous sentir nous-mêmes en exil. Ce n'est pas au nom, en notre nom, qu'on peut faire ça. Et il me semble... que, alors, je me réfère aussi à un historien qui est Howard Zinn, qui est un historien américain qui a écrit Une histoire populaire des États-Unis. Et dans cette histoire populaire des États-Unis, il dit « Moi, j'ai l'impression de vivre dans un coup d'État permanent avec des étrangers qui sont au pouvoir et on me dit que les Mexicains qui arrivent sur mon territoire sont des étrangers, mais cela, je me sens très proche d'eux. » Donc, il y a effectivement une inversion aussi à penser, et cette inversion doit nous engager à penser la position dans laquelle on est, et je pense pour ceux qui font des images, à penser leur position par rapport à ces images. C'est-à-dire, effectivement, à chaque fois, vous posez la question, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut faire valoir, mais La question sera aussi quelle est la position qu'on doit prendre. Et cette position, elle est à trois niveaux. C'est d'une part au moment, me semble-t-il, d'abord où on fait des images, on est dans une certaine position par rapport aux situations, par rapport aux personnes. Ça, c'est un premier point. Comment se positionner par rapport à eux, précisément dans la mesure où on est dans une situation privilégiée en tant que photographe. Et en même temps, il y a quelque chose qui relève d'une forme d'empathie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que cette empathie-là doit se traduire dans l'image sous la forme d'une émotion, d'un sentimentalisme ? Est-ce qu'elle doit se traduire autrement ? Est-ce que parfois la distance n'est pas une forme d'empathie ? Donc c'est aussi une question. Et puis ensuite, il n'y a pas simplement le moment de la prise de vue, il y a le moment où s'élabore le travail. Et ce sont deux moments entièrement différents. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure des photos de Philippe, c'est un montage photographique. Donc ce montage, il s'élabore. Ce qu'on voit aussi des images que vous avez montrées, c'est aussi un montage. On les montre d'une certaine manière, on les recadre, on en fait quelque chose. Autrement dit, on ne doit pas être dans l'illusion que l'image, c'est du réel. Pas du tout. L'image, c'est de la représentation. Et la position, c'est une position de quelqu'un qui doit représenter. Et donc s'interroger sur son rapport à ce qu'il représente, mais s'interroger aussi sur son rapport à ceux qui vont regarder ces représentations. Et c'est le troisième volet, qui est le volet de l'exposition. À qui est-ce qu'on s'adresse et comment on montre ? Une fois qu'on a pensé effectivement ce rapport des images entre elles, ce montage, comment est-ce qu'on va les exposer ? Et ça aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, quel effet veut-on qu'elles produisent sur un spectateur ? Et quand je dis quel effet, ça veut dire, est-ce qu'on vise seulement un effet émotionnel, esthétisant de la belle image ou de l'image émouvante ou du môme mort sur la plage, par exemple, l'effet de sensationnalisme que vise très souvent la presse, ou est-ce qu'on a comme effet de faire penser les gens à partir des images ? Est-ce que l'image va être un moteur de la pensée ?
Justement, la question se pose très souvent de qu'est-ce qu'on représente. Et Rancière, que je vais citer, disait « L'émancipation du spectateur, c'est l'affirmation de sa capacité de voir ce qu'il voit et de savoir quoi en penser et quoi en faire. » Mais la question se pose, est-ce que le spectateur, est-ce que devant ce mainstream de l'information, cette multiplication des images exponentielles, permanentes, constantes, dans lesquelles on est environné, qui nous environne, comment... Qu'est-ce qu'on peut voir ? De quelle façon peut-on aller au-delà de ce qui est montré ? Comment peut-on aborder d'autres parties de l'expérience de l'exil ? Comment parler de ce qui est indicible ? Comment représente-t-on l'indicible, l'invisible ? C'est la seconde question que je vais vous poser. Comment peut-on photographier l'invisible ? Sarah, peut-être. Mais je crois que derrière, ça ne... l'écran est...
Hein, oui, ça va venir. Voilà. Pour cette série, j'ai décidé de parler de ce qui, pour moi, c'est un élément crucial de l'exil, qui est la question de l'enfermement, qui prend différentes formes. En arrivant en Europe, on peut être enfermé dans une zone d'attente. Il y a les centres de rétention en Europe, il y a les centres de rétention à l'extérieur de l'Europe. Cette série raconte des deux pays. C'est les centres de rétention en Italie, à Rome, Ponte Galeria, et c'est les centres de rétention en Libye. Les choix de parler de la Libye, c'est un choix clairement pris, c'est un choix fait que je défends, et c'est l'idée d'aller voir d'abord dans un lieu qui est difficilement représenté, comme le lieu des centres d'enfermement, mais aussi d'aller voir dans les centres d'enfermement avant les frontières européennes. C'est un peu pour reprendre ce que disait Laetitia pour pourquoi les Maroc et la différence entre raconter les choses au Maroc et en Melilla, c'est la même chose être à Lampedusa ou être en Libye. C'est deux récits différents, mais il y a aussi une volonté politique d'aller en Libye parce qu'en Libye, il y a bien les effets des politiques européennes. C'est que certains, dont aussi les réseaux Migrop, dont je fais partie, parlent comme définit l'externalisation du contrôle aux frontières. Il y a tout en politique des blocages des migrants en amont qui s'est produit en Libye et s'est produit notamment à travers les centres de rétention. Aller raconter ce qui se passe à l'intérieur de ces centres de rétention, c'est aussi porter face au visage et aux yeux des Occidentaux les effets des politiques européens. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une volonté aussi claire et nette des politiques européens d'externaliser aussi pour pousser la violence, les effets de ces propres violences loin des eaux des Occidentaux. Donc faire des images à l'intérieur des centres de rétention en Libye, c'est porter ces images face à l'opinion publique européenne pour raconter les effets et les dégâts qui sont souvent pas visibles. Donc l'idée d'aller au-delà d'un mur, donc dans un centre de rétention, et l'idée d'aller aussi dans un centre de rétention, mais encore plus à l'extérieur des frontières européennes. Là aussi, répondre justement pour terminer la question des à quoi sert ces photos. Je suis retournée en Libye suite à ces missions. J'ai rencontré la même personne qui était enfermée encore 5 mois après. Je lui ai ramené c'est les rapports qui étaient faits principalement de ces photos et j'ai emprunté un peu sa réaction et sa réaction c'était de dire très bien, vous avez porté nos mots et nos visages au Parlement européen, dans les associations européennes pour raconter que nous sommes toujours enfermés ici. Donc voilà, je pense que là j'ai compris l'essence ultérieurement de porter quelque chose qui est invisible, les porter à l'extérieur et porter la parole de ceux qui sont enfermés et faire comprendre les dégâts de ces instruments des politiques européens qui sont les lieux d'enfermement comme aussi les certains et nombreuses frontières.
Merci Sarah. Philippe, est-ce que travailler les marges aussi, tu as fait une série de photographies qui abordent les marges du camp, des camps, est-ce que c'est une façon de raconter l'invisible, d'exposer?
Oui, les photographies dont tu parles montre là aussi comment s'organise le dispositif de contrôle autour des gens qui sont dans ce camp. C'est pas cette série que vous voyez là, enfin ce montage texte-image que vous voyez là. Mais là, pour revenir à ta question de l'invisibilité, c'est une question difficile parce que il faut quand même dire que l'invisibilité des gens est organisé politiquement. Les médias participent énormément à la construction de cette invisibilité des gens. Le premier jour où on est allé en février dernier, Christiane et moi, au camp à Calais, avait lieu la visite d'une juge administrative qui était chargée de décider de ce qui allait être rasé ou pas, et rasé en concertation avec les associations pendant des semaines et des semaines de concertation. On sait qu'une semaine après, les bulldozers sont arrivés, ont tout rasé. Voilà, donc ça faisait pas 5 minutes qu'on avait mis les pieds dans le camp que les caméramans et le journaliste de France 2, le journal de 20h, nous posaient la question « Que pensez-vous ?» de la pression qu'exercent ces associations sur les migrants. Or, moi, ce que j'avais sous les yeux, c'était 100 à 150 cartes de CRS et la réponse qu'on avait à leur faire, mais quelle est la pression que le gouvernement exerce sur ces gens, elle était beaucoup plus visible. Et évidemment, c'était absolument pas l'objectif de ces médias de montrer ça. Donc, il y a une invisibilité de certaines choses qui me paraissent très importantes, qui est très organisée. Voilà, donc ce jour-là, j'ai pris un peu de recul. Tous les migrants étaient montés dans les arbres pour essayer d'apercevoir cette juge qu'ils ne voyaient pas et qui discutait avec des gens qui n'étaient pas eux ni leurs représentants. Pour savoir ce qu'allait être leur sort. Voilà, donc on est face à cette question de l'invisibilité et la photographie, évidemment, ne résout rien à ça. Hein. C'est pas parce qu'on voit des images des choses que ces choses sont, explicitées en termes de dispositifs, de politiques. C'est pas parce qu'on voit des choses dans les images qu'on comprend ce qui se passe forcément. On sait bien qu'on peut faire dire aux images tout ce qu'on veut. Alors c'est un peu le sens de ce montage de 9 images et d'un texte qui raconte ce moment-là. C'est que évidemment on peut pas se passer des mots pour dire les choses.
Donc on a besoin de.
On en a absolument besoin et voilà. Et pour finir cette courte intervention, je crois qu'il y a un livre essentiel à lire sur cette question de l'invisibilité. C'est celui de Ralph Ellison, l'auteur américain, noir américain, homme invisible, pour qui chantes-tu ? Et je pense que lui a énormément pensé cette question-là de l'invisibilité. Voilà. Alors, et puis je veux quand même dire une dernière chose. On parle beaucoup de ce qui se passe dans le bassin méditerranéen, l'Europe, le monde arabe, etc. Il y a des dizaines de milliers de gens qui se noient dans la Méditerranée. Mais actuellement, dans l'océan Indien, il y a des gens qui sont obligés de s'exiler dans leur propre pays, des Comores à Mayotte. Et depuis la fin des années 70, c'est aussi entre 15 et 30 000 noyés dont on ne parle absolument jamais dans les médias, ou quasiment jamais. Il y a encore actuellement à la Cité de l'Immigration une exposition sur cette question des frontières qui ne mentionne absolument pas ce fait, alors qu'il est aussi massif que ce qui se passe en Méditerranée. Et on voit là aussi comment l'invisibilité est organisée.
Merci Philippe. Il y a tout de même différentes formes, et tu l'as bien rappelé, il y a différentes formes d'invisibilité et d'invisibilisation, mais il y a aussi des angles morts de la photographie ou des reportages, ou en tout cas de ce qui paraît un petit peu dans le paysage médiatique général, et un de ces angles, c'est que deviennent les disparus, que deviennent les corps. Et Laetitia, Hélène et toi, en tout cas, vous avez travaillé sur ce point.
Je disais tout à l'heure, et sur les limites de l'image fixe, on en est donc venu à travailler sur des entretiens du son et de l'image fixe, puis un film dont on verra tout à l'heure un extrait. Juste dire aussi que la disparition qui est produite aux frontières, elle se joue à plusieurs niveaux. Il y a la disparition d'abord symbolique, le fait qu'on est rendu invisible parce qu'on n'a pas d'identité juridique sur un territoire. Et effectivement, il y a la disparition physique, le fait que les corps disparaissent, le fait que les personnes qui font l'expérience de l'exil par voie terrestre, et j'insiste vraiment sur par voie terrestre, ont presque toutes, à un moment donné, dans leur parcours, soit accompagnées, soit vues, l'un de leurs proches, plus ou moins proches, perdre la vie, et elles ne sont pas en mesure de dire ce qu'il a été fait de la prise en charge du corps de celui-ci. Donc, quand on a pris la mesure de ça avec Hélène et de ce qui était en train de se produire donc aux frontières de l'Europe en termes de phénomènes et de toutes ces disparitions. Voilà, donc on a travaillé sur un film qui associe des entretiens de personnes donc, qui sont en mesure de acter ces disparus-là. Et par ce témoignage-là, il faut faire vraiment la différence entre un disparu et un mort. Un mort, c'est quelqu'un qui a une sépulture, qui est enterré, qui reste dans la communauté humaine, qui fait partie encore des nôtres. Un disparu, c'est quelqu'un dont la vie est en suspens, enfin la mort est en suspens. Il y a un autre encore niveau de disparition. Après, je vais passer une courte série de photos aussi pour faire écho un peu ce que vous disiez là, qui sont la disparition qui est de l'ordre de l'occultation des responsabilités qui sont liées à ce phénomène de disparition. L'occultation de responsabilités dans les récits dominants, c'est se passe au niveau de renversement de posture, de transformation de figure du bourreau en sauveteur, par exemple, ou en érigeant certains responsables épouvantails comme ça, commodes. Donc, toutes ces entreprises-là procèdent vraiment de discours, de récits, et si souvent il nous apparaît complètement dérisoire de faire ces images-là, voilà, moi je vous parle d'une situation sur laquelle j'ai commencé à travailler il y a presque 10 ans, On a mis 7 ans à faire un film qui tourne depuis 2 ans, où on parle de ces disparus et de ces morts. Et on voit chaque année exactement le même nombre. Et que maintenant, à part quand il y a une image comme ça un peu emblématique, de toute façon, on est qu'avec du bruit. Et pourtant, je continue vraiment à... Et peut-être aussi pour revenir sur la première question, à penser que si on n'est pas en mesure, ces images-là, elles ne sont pas en mesure de changer quelque chose, mais elles contrent quand même des imaginaires et une entreprise d'occultation de dénégation, enfin, qui est extrêmement puissante. Voilà. Je passe une courte série d'images. Donc, réalisé au Maroc, en Tunisie. En Tunisie, les prochaines que vous allez voir, je vous le dis parce qu'effectivement, à chaque fois, elles sont associées à un texte. Il s'agit, la suivante, d'une fosse commune. Donc, où sont les corps ? Voilà. Là, ils ont été recueillis et enfouis dans une décharge. Une série d'images qui ont été prises dans des cimetières un peu partout au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. Donc ceux-là sont morts. Et elles seront suivies par une espèce de plaque symbolique de ceux qui sont disparus. Donc tout ce matériau-là, qui a été collecté pendant plusieurs années, a donné lieu à différentes formes d'expositions. Donc des expositions, une installation et un film. Donc parfois, on voit une autre disparition en train de se faire quand le mort n'a pas de nom dans les tombes. Et je fais juste un bref retour sur ça. Donc la disparition, elle se joue aussi au niveau de l'histoire et de l'oubli que ça a produit. Là, c'est des photos des anciens camps d'internement qui ont été construits à la va-vite en 1939 pour parquer, pour interner les Espagnols qui donc fuyaient le régime franquiste. Et c'est seulement 70 ans après qu'a commencé à se jouer, à la fois en Espagne et maintenant, une forme d'entreprise de mémoire et que tout ce questionnement autour de qu'est-ce qui peut faire mémoire et qu'est-ce qui peut faire trace quand précisément tout a été effacé. Voilà.
Merci Laetitia. On va revenir sur un extrait du film. Christiane, je vais te donner la parole pour finir cette table ronde avant qu'on voit donc l'extrait.
Oui, donc en fait, effectivement, c'était bien aussi que tu montres ce qui s'est passé aussi par rapport à l'Espagne, que tu évoques ces camps, il y a le camp de Rivesaltes en particulier, qui a servi à la fois de camp pour les gens qui allaient partir vers l'extermination, qui a servi aussi de camp de réfugiés espagnols et qui a servi de camp aussi aux Harkis après la guerre d'Algérie. Et actuellement, sur ces lieux, il y a encore de nouveau une gestion des migrants et un centre de rétention qui est à proximité. Donc voilà, et cela est en relation aussi avec quelque chose alors qui ne concernerait pas l'Espagne, mais qui concerne beaucoup des images qu'on a vues, qui est la question postcoloniale. Donc, Philippe l'a abordé effectivement à propos de Mayotte, finalement, puisque c'est territoire français et que les morts qui y sont actuellement sont liés au fait, justement, d'une question de départementalisation française. Mais cette question postcoloniale, elle est vraiment au cœur de cette problématique. Et je pense que par rapport à cette question postcoloniale, on doit se poser la question des images. Parce qu'il y a aussi une tradition des images coloniales. Il y a une manière de montrer les exotiques, les beaux corps noirs, etc. Et de les montrer sous la forme aussi d'un zoo humain. Ça, c'est une réalité, cette situation qui a été la situation coloniale. Et c'est aussi, quelque part, et très souvent dans les images de presse, une réalité de la situation postcoloniale. C'est-à-dire montrer les sujets, finalement, en position de défaite. Et il y a, me semble-t-il, aussi là-dedans quelque chose qui relève d'une certaine manière, du trophée. Pour avoir vu effectivement des images de gens transportant les Noirs, par exemple, en Angola, à l'époque de la colonisation, les transportant comme des bêtes, pour moi, il y a beaucoup d'images de presse concernant les migrants qui m'évoquent cette image du trophée, c'est-à-dire de montrer des gens défaits, morts, en position, finalement, d'une certaine manière, de soumission ou de défaite. Et je repense par rapport à ça, à ce qu'a été à un certain moment la position d'un photographe comme Eugène Smith. Il est allé à Minamata, c'est-à-dire en tant qu'Américain et sur le territoire japonais, à un moment où il y avait précisément une contamination par le mercure à Minamata. Et ce qu'il a photographié, c'est pas simplement des gens contaminés par le mercure, c'est pas simplement des gens déformés. Il a photographié aussi les gens au procès qui venaient témoigner contre les responsables industriels. Et il les a photographiés, autrement dit, en position de revendication. Et ça me paraît aussi très important, dans le monde contemporain des migrations, de représenter des migrants en position de revendication et pas simplement en position de mort, de défaite ou de désespoir. De les montrer aussi en position verticale, parce qu'il y a actuellement un véritable mouvement de revendication des migrants. Et je terminerai en évoquant un exemple qui me paraît tout à fait emblématique, dont il n'y a aucune image, mais qui s'est passé en Calabre en 2009. Des migrants qui étaient assignés à la culture des agrumes sont entrés en rébellion contre les conditions qui leur étaient faites, qui étaient des conditions de semi-esclavage. Et entrant en rébellion, ils ont marché sur la mairie. Et quand ils sont arrivés à la mairie était vide. Et elle était vide parce que les politiciens responsables de la mairie avaient été convaincus de collusion avec la mafia. Autrement dit, ceux qui étaient éjectés de l'espace politique revendiquaient une vraie citoyenneté, revendiquaient des droits, revendiquaient de la légitimité, pendant que ceux à qui appartenait l'espace politique étaient au contraire en pleine collusion et en pleine déréliction du politique, bien sûr, et en pleine corruption. Et ça, ça me paraît vraiment aussi très important pour parler de cette question des migrants. Ça concerne aussi, je pense, la réflexion qu'on a à avoir sur comment représenter ces conditions-là, comment les représenter autrement que sous la forme de la défaite et du désespoir.
Peut-être pour conclure, y a-t-il deux aspects dans cette question, la forme de représentation des photographes et aussi le devoir, qui est peut-être celui que montraient tes images, Laetitia, quand une liste des noms qui reconvoque bien d'autres choses encore, et dites, quand on se souvient des noms, on se souvient des parcours. Cette double exposition, peut-être se rencontre-t-elle justement en ce point-là, qu'elle est nécessaire d'un côté comme de l'autre. Et je pense qu'on peut passer maintenant, peut-être, avant d'ouvrir le débat, à l'extrait de ton Des Messagers, donc un film de Laetitia Tura, Hélène Cruzilla, sorti en 2014.
Disons le bas du zodiaque, c'est en planche.
Bon, puisqu'il n'y a personne qui va commenter, je vais dire juste un petit mot que j'ai beaucoup aimé ce que vous dites par rapport à l'invisibilité, madame la philosophe Christine, c'est ça? Oui. C'est très intéressant. Je pense qu'il faut intégrer aussi la catégorie de deux catégories dans la discussion, la dignité et la vitesse. Et
là ?
Vitesse. La vitesse, le flux de l'information et tout ça. C'est-à-dire, quand les, je parle du cas syrien, par exemple. Quand les Syriens sont sortis dans les rues en Syrie, c'était dénommé la révolution de la dignité. Mais leur image telle qu'elle est représentée dans les médias et par les Syriens eux-mêmes est humiliante, moi je la trouve. Ils sont toujours en victime, dans une trophée, comme vous dites, et ça va à l'encontre de cette dignité qu'elle était réclamée par les Syriens eux-mêmes. Quand on objecte, on est accusé d'être embourgeoisé et avoir la volonté de filtrer la violence perpétuée par le régime. C'est-à-dire comme si on veut dire qu'il ne faut pas montrer les Syriens dans cette image, c'est vouloir filtrer la violence du régime. Donc il y a une autre perspective des choses, c'est qu'il faut montrer la violence telle qu'elle est. Sauf que montrer cette violence, en fait, ça ancre l'invisibilité davantage, comme je vois les choses. Et à cause de, en fait, pourquoi il y a cette autre perspective ? À cause de la vitesse, du flux de l'information. Donc, on n'a plus le temps de gérer tout. Donc, les gens veulent montrer sans récit, des images sans récit, en fait. Sans récit de vie, sans parole prise par ces victimes. Et voilà, donc c'était juste un commentaire à faire, mais bon, c'était pas une question. Voilà. Merci beaucoup pour votre
temps. Mais ça me renvoie tout à fait à ce qu'écrivait Susan Sontag. Susan Sontag a écrit un bouquin qui s'appelle « Devant la douleur des autres » et qui est un bouquin absolument remarquable sur cette question-là. Et elle est partie précisément des attentats du 11 septembre en disant « c'est quand même étrange ». Aux États-Unis, où il y a tout un tas de revues, de magazines qui montrent à foison des personnages exotiques en position d'être en train de mourir de faim, de se faire massacrer, torturer et tout ce qu'on voudra, au moment où il se passe cet attentat, où il y a des milliers de morts, il n'y a pas une seule image de cadavre. Et elle dit pourquoi ? Parce que précisément, montrer cela est en effet considéré comme dégradant et indigne, donc réservé à des populations postcoloniales. Mais on ne doit pas présenter sous ce jour-là des populations occidentales. Et là, vraiment, je pense que ça doit nous donner effectivement à penser, et je trouve très intéressant ce que vous dites, que les manifestations n'ont pas été montrées. Il y a eu récemment une exposition au bal d'un photographe qui présentait un camp, un centre de passage de migrants. Il présentait exclusivement les images des gens en train d'essayer de faire la cuisine, en train de pleurer, en train de s'appeler, d'essayer de s'appeler sur les portables, etc. Pas une seule image ne représentait ce qui avait eu lieu, c'est-à-dire les protestations gigantesques de ces migrants contre le HCR, qui précisément reprochait au HCR de les assigner à des positions victimaires. Et à un certain moment, le HCR, d'ailleurs, avait finalement enlevé toute une partie de l'eau du camp, précisément pour cette raison-là. Il y a eu des protestations énormes. Aucune des images de ce photographe ne représentait ces protestations.
Ça me vient à l'esprit. Je pense qu'il y a vraiment deux... Sur l'importance de raconter... Je défends absolument cette position. Mais je pense qu'il y a vraiment deux ordres, des dimensions. D'un côté, c'est que les médias veulent véhiculer comme image. Et du coup, effectivement, on a toujours la tendance à devoir voir les spectaculaires, donc les images de la souffrance. Et je pense que là, il y a vraiment une perte de ce qui est la dignité des personnes. De l'autre côté, et je pense que c'est vraiment important à prendre en compte là aussi, c'est les blocages à l'image. C'est l'interdiction des images. Que c'est assez intéressant, c'est que je reprenais sur la question des centres d'enfermement. C'est très intéressant, par exemple, dans l'actualisation d'une nouvelle forme des centres de rétention, qui sont les hotspots aujourd'hui. C'est ce nouveau centre qu'ils ont été créés aux frontières italiennes et grecques pour l'identification. Il y a, pas un circulaire, mais une réalité des faits, c'est toute interdiction des photographes, de la presse à l'intérieur de ces centres. En plus, en utilisant l'excuse que c'est pour les droits des personnes à ne pas se faire prendre à l'image. Et dans cela, on est en train de cacher tout un processus de tri aux frontières, des mises à l'écart, des sélections. Donc, je pense que sous la question de la possibilité de raconter ou pas, il y a certainement une grave problématique de l'image qui est véhiculée par les médias et qui du coup pousse beaucoup des photographes toujours à chercher les sanctionnels dans la misère. Et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose dans lequel, contre lequel il faut vraiment pointer le doigt et se battre. Mais de l'autre côté, je pense que c'est aussi cette volonté de ne pas faire voir l'absence de droit de regard qui est imposée souvent pour ne pas raconter. Je pense par exemple à Rosarno, ce que vous avez raconté, il y avait aussi toute une volonté de ne pas faire accéder les photographes à tout ce que c'est les lieux de l'esclavage moderne, qui est la question des travailleurs saisonniers. Donc effectivement, il y a vraiment aussi cette double réalité qu'il faut prendre en compte et qui fait que donc, la question de la photographie et les récits de l'exil à travers la photographie prend toute sa complexité aussi pour cette volonté de ne pas faire accéder les regards extérieurs.
Et j'abonde complètement dans ce que vous dites. Et effectivement, ne pas être dans la déploration victimaire, mais au contraire montrer derrière l'écran de fumée de cette déploration ce qui se passe vraiment, comment les dispositifs des pouvoirs agissent sur les gens. C'est ce que vous venez de décrire à propos de cet exemple. Et puis, je crois que peut-être plus loin aussi... il faut quand même prendre conscience qu'on est dans une société occidentale du tout image. On est éduqué à une pulsion scopique vertigineuse depuis notre naissance. Voilà, il y a eu à une époque, il y a quoi, plus d'un millier d'années, cette fameuse querelle des iconoclastes. Nous, on a choisi l'image. Dans notre société occidentale, ça n'a pas été le choix de tout le monde. Et on est vraiment, c'est très fortement inscrit en nous, ce besoin absolu de voir. On est allé au camp de Grande-Synthe, vous tapez camp de Grande-Synthe sur Internet, et vous avez des milliers de photos, toutes plus dégradantes les unes que les autres. On voit les gens qui sont en train de vivre dans la boue, dans leur tente. Voilà, personne d'entre vous qui est ici aimerait être montré comme ça, je pense. Peut-être prendre conscience qu'il y a aussi une éducation, une auto-éducation à faire dans nos sociétés sur ce que ça représente, que cette pulsion scopique, cette volonté de tout voir, absolument tout le temps. Je pense que c'est un vrai problème et que bien sûr, la circulation des images sur Internet, tous ces nouveaux médias qui se créent ne nous favorisent pas du tout dans le sens d'une éducation, dans le sens d'une déconstruction des processus de pouvoir qui mènent à ça, à ces situations, etc. etc.
On peut peut-être prendre quelques questions. Laetitia, tu voulais, il y a peut-être d'autres.
Oui. Bonjour. Moi, c'est pas vraiment une question, mais en fait, c'est plus une réaction. Parce que je trouve que tout ce qui se dit là est vraiment passionnant. En fait, moi, je suis la metteuse en scène de l'extrait
Guest.
Du spectacle, voilà, de Winter Guest. Et en fait, ça résonne. Je trouve que c'est très intéressant cette question de l'image. Et moi, je considère justement que j'ai peut-être à cet endroit-là la chance de faire du théâtre. Et je pense que, enfin, d'avoir choisi comme art le théâtre. Et je pense que j'ai ressenti au début de ce projet exactement cette sensation qui était que je proposais un atelier de théâtre à des jeunes dits réfugiés et que tout d'un coup, il y avait le théâtre, c'est un lieu d'expérience et qui est du coup unique et un lieu du coup d'humanité et on ne peut pas enlever l'humanité à l'expérience du théâtre. Et je pense que quand j'ai commencé à travailler avec ce groupe de jeunes, j'ai vraiment ressenti cette chose très puissante. Et c'est de là qu'est parti après le désir commun de continuer l'aventure en présentant un spectacle. Pas seulement en faisant du théâtre entre nous de façon à la fois amusante ou cathartique, mais aussi de transmettre, c'est-à-dire, OK, maintenant on va voir ce plateau et vous voulez dire quoi ? qu'est-ce que vous avez là maintenant à raconter, et on va essayer de le faire en français parce que vous êtes dans cet apprentissage-là. Et finalement, je trouve que ça, en fait, du coup, j'avais l'impression qu'on était dans un endroit complètement décalé et déplacé de tous les autres espaces publics présentant ou représentant les 10 migrants qui, tout d'un coup, étaient seulement des jeunes qui investissaient le plateau et, du coup, qui ramenaient avec eux une sorte de courage. Mais oui, le courage de monter sur scène. Mais aussi, il y avait un fossé avec l'image qu'on a habituellement, en fait. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas habitué, en fait, à voir des personnes vues ou dites en détresse. Tout d'un coup, quand ils prennent vraiment la parole, alors on peut se dire « Waouh, quel courage !» Mais aussi, dans d'autres situations, on peut se dire « Eh, dis donc, celui-là, il est un petit peu... » J'ai aussi ressenti ça à d'autres endroits. De tout d'un coup, quelqu'un qui, je vis avec un Syrien et je l'ai déjà vu dans des situations où tout d'un coup il dit franchement ce qu'il pense à quelqu'un et que la réaction est vraiment très étrange parce qu'on n'a pas l'habitude, on a plutôt l'habitude de la victime, on a plutôt l'habitude que tu baisses les yeux et tout d'un coup non, le mec il te regarde dans les yeux et il te dit vous, bah, et sans agressivité. Mais voilà, je pense qu'il y a... c'était juste ce que j'avais envie de dire. Pardon, je me suis en plus étendue. Je suis désolée, mais je trouve que c'est une question passionnante, cette question de l'image. Et donc, voilà. Et au théâtre, du coup, de l'expérience. Parce que je pense qu'on a besoin d'espaces de rencontre et d'expérience absolument aujourd'hui entre les personnes.
Merci, Aurélie Ruby.
Bonjour. Donc, je vais... juste rebondir, mais très rapidement, parce que je pense que ce que voulait dire Aurélie, c'est qu'à travers Winter Guest, on montre là des migrants qui sont dignes, debout, et voilà. Et comment ? Non, tu n'étais pas du tout confuse, mais voilà. Et je suis très intéressée par ce que vous venez de dire sur le danger de l'image victimaire qu'on renvoie, et au-delà de l'exil, par rapport à la situation qu'on vit en France à l'heure actuelle. Donc moi, je travaille en tant qu'éducatrice en Seine-Saint-Denis, et les gamins ont bien intégré toute l'image victimaire qu'on veut faire passer. J'en prends pour preuve des jeunes qui posent pas mal de problèmes, qui sont issus de l'immigration, mais qui sont totalement nés en France. Et quand on essaye de leur dire « Bon, vous arrêtez de faire vos conneries », et là, ils disent « « Ah mais non, mais je suis un migrant !» Voilà, enfin ça c'est des trucs que je vis et je pense que c'est assez dangereux ce qui se passe de vouloir toujours de catégoriser les gens, de les rabaisser et ça joue contre le fameux vivre ensemble dont on parle tout le temps. Voilà.
S'il n'y a pas immédiatement, moi j'aimerais prendre la parole.
Ah. Il y a encore deux questions, mais...
J'aimerais prendre 2 minutes la parole pour ces différents points de vue, à la fois montrer, mais pas montrer n'importe comment, mais aussi laisser entendre et laisser aux personnes concernées l'espace nécessaire pour dire. Moi, ce qui m'a frappé dans toutes les photographies que vous avez montrées, dans le film aussi, c'est peut-être que ce qui se montre le plus, c'est peut-être un point de non-retour. De différents niveaux, au niveau politique, mais au niveau de l'intime aussi. Je veux dire, le témoignage de c'est Karine tout à l'heure, il y a vraiment un basculement, on sent ce basculement dans l'ordre de l'intime, on le sent dans le politique, on le sent dans l'idée même de dignité et de se penser comme être humain dans la communauté des hommes. Documenter cette espèce de point, ces points de non-retour, les travailler d'un côté et de l'autre à travers, comme vous venez de le dire Aurélie, différentes formes d'espace en alliant et le texte et l'image. Oui, ça me semble être encore... voilà, ça c'est mon observation avant de passer la parole à d'autres.
Justement, parce que là il y a effectivement une fabrication de la pâte, exactement ce que tu viens de dire, c'est ce point de non-retour. Et là, avec dans le film Les Messagers, on voit très bien, on voit les images, d'accord, mais ces images ont pris corps, je veux dire, et c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu au théâtre, là, précisément, parce qu'il raconte, il y a une prise de position qui est aussi la tienne de réalisatrice, comme il y a une prise de position ici, vous, de théâtre, et cette prise de position, elle est politique. Et là, à ce moment-là, l'image telle qu'on la voit là, qu'est-ce qu'on en fait des fois ? On est complètement, on ne sait plus quoi faire, parce qu'on est aussi complètement troublé. Là, c'est la fabrication de quelque chose avec des corps vivants ici sur scène. C'est pas exactement. Le traitement n'est pas le même, mais aussi, ça dépend de ce qu'on en fait et de ce qu'on fait avec ce qu'on a, ce qu'on montre, ce qu'on a. Ce qu'on ressent et ce qu'on a à dire. Et là, dans Les Messagers, il y a une correspondance entre théâtre, ce qu'on a vu, et le film Il faut y aller.
On a une dernière petite question avant de terminer.
On ne pose pas les bonnes choses, j'ai l'impression. Vas-y.
C'est au sujet dans le film, à un moment donné, vous listez des noms et dessous de gens décédés, et dessous vous mettez bateau percé par les Marocains. Qu'entendez-vous par là ? Non, mais je veux dire, après, il y a des bateaux qui viennent récupérer des Marocains. J'entends un bateau, mais alors moi, ce que je vois dans le film, c'est autre chose.
Oui, mais vous avez vu plusieurs situations différentes. Qui correspondent à des situations différentes. À chaque fois, c'est des événements particuliers. Donc, les informations qui vous sont, enfin, les récits qui sont que vous avez entendus, que cela soit celui de Karine ou tout à l'heure les espèces de plaques aux disparus, sont parcellaires et elles ne sont le reflet que des récits parcellaires qui nous ont été communiqués. Donc celui qui a été dont le bateau a été renversé par des Marocains, ça correspond à la disparition de cette personne-là et de la manière dont elle a été faite. Juste, j'ai l'impression, je ne sais pas très bien le formuler, mais qu'on oppose un petit peu des choses qui sont pas forcément. Pour moi, il y a vraiment une question de forme qui se joue et qui n'est pas relative au. On peut enfermer dans l'image, dans le récit, en parlant de la violence aux frontières, comme en parlant des choses qui seraient plus positives, pour le dire vite. On peut assigner les gens à une place ou bien leur redonner une dimension de sujet, à la fois à celui qui porte le récit, mais aussi à celui qui le reçoit. Et j'ai envie de dire, quel que soit ce dont quoi, le sujet dont porte... Quel que soit le sujet dont porte le récit, j'en perds ma phrase, j'espère que vous m'avez compris. Et je pense que c'est vraiment au niveau de la forme que ça joue, quoi. Il ne s'agit pas d'opposer une violence d'un côté et un désir de l'autre. Je pense que les deux sont à travailler. Le désir et la détermination de la migration sont à travailler de la même manière que le déni et la violence qui s'abat sur des situations d'exil aujourd'hui. Et je ne crois pas que ça soit un bon terrain d'essayer de les opposer. Ça joue vraiment pas là, je crois. Mais les deux sont à travailler.
Ben oui. On essaye. Pas simple. Est-ce qu'il y a encore de dernières questions ? Parce qu'on va bientôt finir. On va bientôt. Oui, on me fait des
merci,
signes. D'ailleurs,
ouais.
C'est clos. Merci à tous.
Non, mais c'est aussi par rapport à l'attention du public. On va peut-être arrêter là. Ben, écoutez, merci à tous les cinq. Merci pour ce débat. C'était passionnant. Et en vous rappelant que la soirée a été enregistrée aussi, donc elle sera disponible en ligne d'ici quelques jours sous forme de fichier podcast. Et puis que vous pouvez consulter régulièrement la programmation de la BPI pour les semaines qui viennent. C'est des sujets assez variés, mais il y a toujours des liens qu'on peut faire entre les sujets. La semaine prochaine, par exemple, on va parler de musique pop et d'émancipation sociale. Donc on va aussi un petit peu parler de post-colonial studies en partie, par exemple. Et la semaine d'après, on va parler de religion à nouveau. Donc on n'a pas parlé directement de ces sujets, mais voilà. Donc je vous invite à consulter la programmation de la BPI sur notre site. Et donc nous remercions une nouvelle fois Alexandra et Marie-Caroline pour leur collaboration pour cette soirée.
Et merci
soirée.
À vous.
Et à bientôt. Au revoir.